Bien, je disais que ce troisième sujet que nous allons aborder, et que j'ai intitulé « Le problème du mal », est une question d'une part importante dans toutes les traditions, dans toutes les approches, de quelque méthode qu'elle soit. Mais en particulier, la difficulté principale est que l'enseignement de la Kabbalah emploie des notions assez parallèles, assez voisines, pour identification, pour nous permettre d'identifier de quoi elle parle, des notions qui sont employées par les autres méthodes d'approche du problème, le problème du mal, ce qui complique un peu la question. Mais c'est pourquoi j'ai essayé de synthétiser, de simplifier au maximum, de telle sorte que la problématique à travers laquelle la tradition de la Kabbalah a rencontré ce problème vous paraisse la plus simple possible. Et il y avait deux méthodes possibles. Soit l'analyse des deux notions principales que vous avez dans l'intitulé. La première notion, c'est unité et multiplicité. La deuxième, c'est la citra achra, l'autre côté, et les clipot, les écorces. Tout ça, j'essaierai de définir tout à l'heure. Donc la première méthode était d'étudier ces notions-là et à travers elles, de poser le problème du mal de la manière dont la tradition de la Kabbalah l'explique, ou bien la méthode inverse, c'est-à-dire d'aborder le problème de l'existence du mal dans un monde créé par Dieu, d'aborder ce problème directement et à travers l'analyse du problème, faire allusion, ou du moins analyser quand même, plus qu'en parenthèse, les notions en question. Finalement, j'ai choisi la deuxième méthode. Je vais te demander qu'on puisse élever le micro. Voilà. C'est un livre en hébreu. Alors, pour aborder cette question, et elle se formule en première approche de manière finalement assez simple, ce n'est que dans les doctrines qui implique comme postulat premier l'existence d'un créateur, que c'est bien le créateur qui a créé le monde où nous sommes situés et qui pose les problèmes qui se posent à nous, que dans ces doctrines-là, le problème du mal fait le problème. Dans des doctrines où on ne fait pas appel à la notion d'un créateur, qui serait par définition l'être parfait et absolu, la contradiction entre l'état du monde et l'idée d'un créateur parfait ne ferait pas problème. Je pense que c'est suffisamment clair. Et pour aborder cette question, je vais quand même introduire une brève introduction qui nous ramènera au premier sujet, c'est-à-dire la définition de la Kabbalah, dans l'expression « Chochma da Kabbalah ». Je ne vous ai pas signalé, parce qu'on ne peut pas tout voir à la fois, les différentes expressions par lesquelles les kabbalistes eux-mêmes désignent leur tradition, par exemple « Chochma da Nistar » opposé à « Chochma da Niglé ». À travers chacune de ces expressions, d'ailleurs, nous pourrions avoir des analyses importantes et enrichissantes. Je crois qu'il faut élever le débat. Alors, je disais donc que je vais commencer par une brève introduction qui nous ramènera au sujet de la première étude, c'est-à-dire la définition de la Chochma à Kabbalah. Ce que nous avons déjà appris au sujet du mot Kabbalah, c'est qu'il y a deux hypothèses de lecture qui, chacune d'entre elles, désigne un aspect de la définition même de ce dont nous parlons, en parlant de la tradition de la Kabbalah. La première lecture, c'est de traduire le mot Kabbalah précisément par le mot de tradition, dans le sens de tradition reçue, les Kabbalah. Mais vous vous rappelez que nous avons analysé et critiqué cette définition, ce qui nous a mené rapidement à une deuxième définition, qui est la relation entre la Kabbalah et la prière, et la tfila. Je ne vous rappelle pas le détail de l'analyse, mais simplement le principe général qui est que, à partir de la création, à partir du moment où la création est devenue consciente d'elle-même à travers l'homme, ce qui passe entre le créateur et la créature, c'est essentiellement la parole, la voix. Lorsque la voix va du créateur à la créature, c'est la révélation, la prophétie, prenez plus le terme de prophétie que de révélation, parce que le terme de révélation est beaucoup plus général. La prophétie par la parole, et lorsque cette parole va de la créature au créateur, il s'agit de la prière. Et il y a un lien très étroit entre la capacité de prophétie et la capacité de prière dans l'ensemble, dès l'abord du vocabulaire biblique. En fait, une petite parenthèse historique qui illustre bien ce principe, c'est que les textes rédigés du rituel traditionnel nous ont été laissés par les derniers prophètes. Le Talmud, en indiquant que c'est les derniers Anshei Knesset HaGedolah, les fondateurs du Beit Sheni, qui ont rédigé le rituel, parce que la capacité prophétique diminuant au point tel qu'elle était, à un point tel qu'elle était occultée pour le plus grand nombre, la capacité de prière elle-même était aussi occultée. Et donc il était nécessaire de fournir à la communauté des priants un texte à travers lequel l'intention de prière pouvait être formulée en vérité. Et ces textes ont été rédigés par les Anshei Knesset HaGedolah et le Talmud signale Umehem Anevi'im Aharonim, et parmi eux les derniers prophètes, pour bien indiquer le lien entre ces deux capacités. Et nous étions arrêtés là, si je me souviens bien, pour l'analyse de la définition du mot de Kabbalah. Je n'ai pas situé dans le programme que nous étudierons dans ce séminaire l'étude du problème en lui-même, le lien entre la prière et la Kabbalah, mais je vais m'appuyer sur cette définition pour arriver à une troisième définition de Chokhmat HaKabbalah, la sagesse de la Kabbalah, qui nous servira d'introduction à notre problème. Et vous garderez bien cette introduction en filigrane des analyses qui vont suivre. Nous revenons à l'équation préalable qui nous a surtout occupé la dernière fois, donc dans le dernier cours. C'est la tension de définition au niveau de l'être entre l'être créateur et l'être créature. Et je reprends ici essentiellement des catégories du vocabulaire du Rav Ashlag. L'être créateur se définit ainsi. L'être, donc tout l'être, consiste à donner l'être. L'être créature se définit ainsi, l'être dont tout l'être consiste à recevoir l'être. Ce qui signifie que, au niveau de la notion de l'être en général, qui chez les philosophes est consubstantiellement commune, dans la limite de l'imparfait au parfait, entre l'homme et Dieu, nous avons dans la Kabbalah une catégorie radicalement différente et qui distingue absolument, non pas dans l'ordre de l'imparfait au parfait, ce qui en fin de compte est une idée floue, pas la peine de prendre le temps pour l'analyse, je dis ça en passant, c'est une idée floue parce qu'on pourra toujours ajouter une unité au fini pour viser l'infini, mais la notion de fini elle-même, on pourra toujours ajouter une unité, de telle sorte que, en fin de compte, c'est une unité floue. Dans la logique moderne, contemporaine, on parle aussi de niveau d'infini, d'unité d'infini différente. Mais sans entrer dans ces détails-là, il n'y a pas une différence de degré, fût-elle infinie, entre l'être créature et l'être créateur. Pour la pensée de la Kabbalah, il y a une différence de nature, en prenant ce terme dans le sens le plus absolu qu'il puisse y avoir, une différence d'essence. La catégorie de la Havaya, de l'être, implique en elle-même et par définition deux polarités radicalement différentes. L'être qui est en donnant l'être, et l'être qui est en recevant l'être. Il n'y a pas d'altérité plus radicale dans aucun des systèmes qu'on peut explorer en dehors de celui de la Kabbalah, un système, une méthode, disons, entre la définition de la créature et la définition du créateur. La créature découvre le sentiment du créateur, l'évidence du créateur, en se connaissant comme créature. C'est une manière d'être qui consiste à se connaître comme n'étant que dans la mesure où l'on reçoit l'être qui nous fait. C'est radicalement autre que la notion de l'être philosophique. Et par conséquent, nous avons vu tous les problèmes de la médiation entre l'être créateur et l'être créature. C'était les notions du Tzimtzum, du Halal, des Kelim et de la Shvirat HaKelim que nous avons vues la dernière fois. Si je dois les réutiliser dans nos analyses, je les redéfinirai brièvement pour ceux qui ne les auront pas en mémoire ou ceux qui ne les ont pas la dernière fois. Et finalement, il apparaît du dedans de ces principes d'introduction, de rappel de la définition de la catégorie fondamentale à partir duquel la Kabbalah réfléchit pour se poser la question comment l'existence d'un monde est-il possible. Vous vous rappelez le sujet de mardi il y a 15 jours. Eh bien, qu'il y a une circulation d'être qui se fera entre l'être donnant l'être et l'être recevant l'être. Je vais relier cette définition à la définition précédente, que la Kabbalah, c'est la capacité de prière. Or, dans la prière, précisément, ce qui est toujours demandé, c'est un surcroît d'être. Par conséquent, la définition de Chokhmat HaKabbalah peut être lue dans le sens littéral des termes employés, c'est la sagesse qui permet de savoir comment recevoir l'être que l'on reçoit. Chokhmat HaKabbalah, l'indice est Kabbalat HaYesh, la réception de l'être que donne le Créateur. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors retenons bien cela. Il y a un problème qui consiste à recevoir l'être. Et retenons cela comme principe des différentes analyses que nous allons avoir, jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. Cela va nous servir de ligne directrice. Vous devinez que dans le sujet de ce soir, l'intervention de la dimension du mal s'attache à la racine même, à cette première définition. Étant donné que la créature a à recevoir l'être, et elle doit savoir se comporter de telle sorte que l'être qui veut lui être donné puisse être reçu par elle, c'est là que va s'accrocher la dimension, va intervenir la dimension de ce que nous avons l'habitude d'appeler le mal. Tant que l'être n'est pas reçu, il y a situation de mal. Le jugement porté sur la création ne peut pas être dit quitte que c'est bon, puisque l'être qui a voulu être donné n'est pas encore suffisamment reçu. Ou si l'être est mal reçu, une deuxième facette du problème, si l'être est mal reçu, alors le résultat en est une autre facette du mal. Mais surtout, ce que nous apprendrons systématiquement, et je vous citerai immédiatement à ce propos un enseignement du Ramchal, de la Bible Moshe Chaim Mouzato, dans le texte, c'est que tant que l'être reçu n'est pas mérité, tant qu'il n'est reçu que comme bon reçu, comme cadeau reçu, il n'est pas encore justifié, ne surtout pas encore acquis. Et par conséquent, la volonté du Créateur n'est encore pas accomplie. Je veux dire qu'il y a là deux niveaux qu'il faut bien distinguer. Il ne suffit pas de recevoir avant le mérite pour avoir vraiment acquis. Il y a donc deux stades. Premièrement, recevoir sans que le mérite ne soit encore là. Le cheminement de l'acquisition du mérite, et je vous renvoie déjà au cours de la prochaine fois sur le tikkun, la restauration du chaos. Et après, en quoi que ce soit l'acquisition du mérite, alors seulement la volonté du Créateur dont tout l'être consiste à donner l'être est accompli, parce que là c'est vraiment reçu, c'est vraiment eu. Est-ce que c'est suffisamment bon? Par conséquent, inévitablement, et c'est là l'originalité de l'enseignement de la Kabbalah sur ce point, comme je vais l'analyser un peu plus en détail, inévitablement le projet d'une création de l'autre qui recevrait l'être implique la dimension du mal, tant que l'être n'est pas vraiment reçu. C'est clair jusque-là? Objection, tout de suite, et c'est là aussi en filigrane. Et pourquoi tout ce processus qui implique la dimension du mal? Là, c'est justement encore plus tout à l'heure. Pourquoi tout ce processus, le monde ne pouvait-il pas créer d'emblée parfait? Donc, il nous suffira de relier ces deux principes pour comprendre l'essentiel de notre problème. Je vous disais tout à l'heure que c'est une des questions les plus difficiles de la philosophie et je voudrais mettre en évidence l'originalité, enfin, la spécificité, plus l'originalité, de la manière dont la Kabbalah aborde le problème. Elle est la seule tradition qui aborde le problème face à face. Je veux dire, qui prend le taureau par les cornes. Chez Billy Hamek, comme disent en français, en fait, dans l'ensemble des traditions philosophiques et théologies philosophiques qui se sont occupées de ce problème, ont tendance à trouver comme explication l'allusion à l'idée d'un dualisme originel. Et je vais expliquer pourquoi. Pour ne pas risquer de culpabiliser Dieu de l'existence du mal dans son monde. Pour essayer d'éviter cela, qu'en fin de compte, le responsable de l'existence du mal dans le monde serait le Créateur lui-même. Et donc, on préfère aborder le problème dans l'aspect d'un dualisme. En particulier, je pense que c'est toute la tradition antérieure à la philosophie d'Aristote, c'est aussi toutes les religions païennes qui idolâtrent, qui, à la limite, récapitulent le polythéisme, la multiplicité des forces érigées en divinité, en un dualisme de base ou de primordial, en fin de compte, les forces du bien, Dieu, le Créateur, les forces du mal, la créature, la matière. Mais surtout, je mettrai en évidence, parce que c'est celle qui a imprégné le plus la culture contemporaine, l'explication qu'en donne Aristote, il présente le problème en disant que, en aucun cas, Dieu n'est créateur. L'existence de Dieu, selon Aristote, est parallèle c'est une coexistence éternelle et de toute éternité avec une matière elle-même éternelle, et la source du mal vient de la matière. L'effort de Dieu n'est pas créateur dans le sens biblique, selon Aristote, mais démiurgique. J'explique ce terme. Le Dieu démiurge, c'est le Dieu qui fabrique, mais non pas qui crée. La matière est éternellement existante, et donc il y a deux entités coéternelles, à la limite, dans une coexistence mystérieuse. Parce que, vous savez, les explications apparemment simples comme le dualisme, elles sont les plus compliquées. Parce qu'elle ouvre la porte à mille questions sans solution. En voilà une de ces questions qui est pour les aristotéliciens, pour les dualistes en général, mystérieuse. Qu'est-ce qui a fait que, à un certain moment du temps, Dieu décide de mettre fin à cette coexistence parallèle, coéternelle, et d'entreprendre son action de démiurge, c'est-à-dire d'intervenir comme pour fabriquer les créatures que nous connaissons, créatures entre guillemets, les êtres que nous connaissons. Voilà une des questions sans réponse. Alors on vous répondra, ça dépasse l'entendement humain. Mais ce qui dépassait l'entendement humain, c'était la manière de poser la question. Mais surtout, c'est que ces philosophies, ces traditions, parfois religieuses elles-mêmes, dans l'ordre des paganismes, des idolâtries, des mysticismes et extérieurs à la tradition biblique, à la tradition d'Israël, véhiculent un pessimisme radical et irrémédiable. Parce que si la relation entre le bien et le mal est la relation entre deux essences coéternelles, et il est arrivé qu'au commencement d'un Bereshit quelconque de l'histoire, Dieu s'est fait démurge et a tenté de façonner cette matière qui, comme matière, est la source du mal, alors il n'y a pas d'espoir que ça s'arrange un jour. Parce que si ça devait s'arranger un jour, ça se serait déjà arrangé depuis le premier jour. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. C'est-à-dire, toutes ces doctrines dualistes sont des doctrines très stoïques. Je ne dirais pas forcément stoïciennes, mais des doctrines très stoïques qui ont leur dignité propre, mais elles sont très pessimistes. Tous les mysticismes qui vont dans ce sens-là, je vais essayer de vous donner un diagnostic qui me semble être sans exception en dehors de la tradition d'Israël, sont sans sourire, sont sans joie. Ce sont des mysticismes, mais sans simha. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et en particulier, on diagnostique ça dans toutes ces hautes spiritualités de l'extrême Orient, où vous avez un seul sourire, c'est le sourire du Bouddha. Je vais essayer de vous l'interpréter, comme si le Bouddha voulait vous dire, tu veux savoir, eh bien, il n'y a rien à savoir. Mais, et s'il pouvait avoir ses 12 bras animés, il le dirait avec les mains. J'ai toujours été frappé par cela, que le sérieux de la mystique en dehors de la tradition d'Israël, ce sérieux cache un pessimisme radical. Je pense que c'est suffisamment clair. On tente d'atteindre une quelconque, en quoi que ce soit, dignité ascétique, mais cette dignité laisse deviner finalement un pessimisme radical. Ce pessimisme radical vient de ce que le mal a sa source dans une essence parallèle, coéternelle à Dieu. Donc on ne parlera plus de Dieu comme créateur, mais à la rigueur comme démiurge. Je pense que c'est suffisamment
clair. Et voici en général comment, en dehors de la Kabbalah, on tente, ça s'appelle en langage barbare de théologien, la théodicée, on tente de déculpabiliser Dieu de la culpabilité d'avoir créé le mal. Et à travers toutes les ou les possibilités du mal, ce qui revient même, j'ai déjà évacué au premier cours, non au deuxième, à propos du Suratakini, l'hypothèse du péché originel. Vous rappelez où cela? C'était quand?
Deuxième.
Donc, j'y reviens pas. Simplement pour le rattacher à notre sujet, pour le remettre à sa place à notre sujet, pour dire que c'est pas Dieu qui a fait la faute du premier homme, dans le thème du péché originel, lu pas à la manière hébraïque, vous rappelez où cela? Le péché originel comme explication de toutes les catastrophes du monde. Je pense que vous avez bien intégré le caractère énorme d'une telle explication du point de vue de son immoralité profonde, de son injustice profonde. C'est bien clair. Et que, bien sûr, on ne va pas dire que c'est Dieu qui a fait la faute du premier homme, mais on dira, par exemple, que Dieu a créé les conditions de possibilité de la faute du premier homme. Ça revient au même. Ça revient au cas précédent. Ou bien on fera appel à un ange déchu, un malin génie, le malin, qui, lui, a tenté l'homme, mais ce malin génie, d'où vient-il? Alors on expliquera que c'est un ange déchu. Et le problème n'est que repoussé, on revient au cas précédent, ça veut dire qu'en fin de compte, la responsabilité est au créateur d'avoir créé un monde qui avait une telle possibilité. Donc on n'échappe pas du dilemme, ou bien dualisme. Dieu est en dehors du problème du mal, parce que le mal a sa source dans une matière coéternelle à lui, et ça c'est la position de la Kabbalah, il y a une nécessité a priori de la dimension du mal qui s'attache au projet de la création. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je suis à la fin de la première introduction, et je vous donne tout de suite quelques références. Je crois, oui, que surtout ça, je pense qu'il faut mettre en évidence. C'est que toute doctrine qui essaye, disons en bonne part, de séparer de Dieu l'idée du projet du mal par rapport à ce monde-ci, finalement tombe dans un pessimisme radical. Bien, je vais vous donner une première référence qui se trouve dans le prophète Isaïe, est-ce que j'ai noté? Non, je n'ai pas noté la référence, mais vous pouvez la trouver dans le prophète Isaïe, qui est le verset suivant, et qui nous montre bien que la tradition prophétique, qui est la source de la Kabbalah, a pris le problème face à face. Un verset apparemment étonnant pour quiconque n'a pas déjà entendu, pour quiconque n'a pas déjà lu. Dieu est défini comme Yotzer Or, qui forme la lumière, Boré Rocher, et qui crée l'obscurité. Donc l'obscurité est créée. L'obscurité n'est pas une idée négative de la lumière, c'est une réalité créée. Et puis ça va plus loin, Rosé Shalom, qui fait la paix, ou Boré Ram, et qui crée mal, et qui crée la chose mal. Je ne veux pas traduire qui crée le mal, parce que le texte ne porte pas au Boré Hara, ou est rare, mais je traduis donc littéralement « pourré rare ». C'est-à-dire la dimension rare semble bien s'attacher au projet du créé. Je vous explique à deux niveaux, avant de vous lire un autre texte. La formule est donc le fait de créer implique le mal. Et on arrivera au deuxième niveau que la vérité, la création, dans son premier stade et dans l'état du mal. Je vais tout de suite vous donner le texte du Ramchal à ce sujet et je reviendrai ensuite sur d'autres références. Voilà, je vais essayer de vous le lire simultanément en hébreu et en français sans attraper trop de d'anticolis. Et cela se trouve dans le premier paragraphe d'un livre du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Mutato, qui s'intitule Pitre Chochma Vadaat.
Le titre, c'est Cloud Vision.
Le premier principe qu'il enseigne, c'est Kavanat Tabriya, l'intention de la création. Kavanat Tabriya, dans d'autres registres de vocabulaire, vous avez l'expression qui nous est beaucoup plus familière, Marcheve Tabriya, la pensée, le projet de la création. Et nous sommes toujours sur la formule que c'est le projet de créer l'autre que soi qui entraîne pendant tout le temps que nous allons appeler ce monde-ci la dimension du mal. Avant d'aller plus loin dans la citation elle-même, j'espère qu'il est suffisamment clair que nous sommes dans une autre problème radicalement opposé à ce que j'ai appelé tout à l'heure la théodicée. Encore une fois, la théodicée, c'est une partie de la théologie philosophique, ou ça peut être une partie de philosophie même théologique, qui essaye d'expliquer l'origine du mal en dehors de la relation à Dieu. C'est clair jusque-là. Alors que là, déjà par le verset d'Isaïe, que nous trouvons en plein dans notre sujet, le fait de projeter l'existence d'un monde implique que ce monde sera dans le stade Ra, en tout cas de façon nécessaire. Ça sera la première explication, et puis provisoire, nous le verrons ensuite par d'autres références. C'est pourquoi j'ai introduit la notion de ce monde-ci pour le moment. Moi, je regarde la vie. Ce que nous savons, ce qui nous est connu, les kavanot ha-ma'atzil, des intentions de celui qui a fait émaner le monde, vous vous rappelez du schéma de la dernière fois, le or de la lumière qui revient dans le halal du vide, place du monde. Vous vous rappelez de cela? Alors, le geste de l'émanation du or dans le halal s'appelle atzilut. Les ha-atzilut, ça veut dire émaner. Donc, ce que nous pouvons savoir de l'intention, je vais résumer, du Créateur, qui, dans sa volonté de faire du bien, vous rappelez l'acte de création comme acte moral fondamental. Faire exister l'autre, et par conséquent, une telle donnée implique que la volonté du Créateur, Marchevet Abriya, Kavanat Abriya, c'est de donner le tout du bien. Notre problème étant, pourquoi ça commence? Et en disant ça commence, c'est déjà l'explication, pourquoi ça commence par un si grand mal? Est-ce que c'est clair, Jésus? C'est le paradoxe de la découverte que ce monde est bien créé par le Créateur. Et ce paradoxe, c'est que, et s'il en est ainsi, comment se fait-il que la créature d'un tel Créateur soit si mal? Employez tous les vocabulaires à ce sujet, ça viendra au même. Pilkoul, Hasser, etc. Quel que soit le terme, on en revient finalement aux différentes facettes de ce qu'on appelle Ra, ce qui n'est pas Tov. Je crois qu'il est nécessaire d'ouvrir une petite parenthèse pour bien indiquer cela, étant donné cette perplexité. Comment admettre, comment comprendre et comment sortir de cette perplexité que ce monde dont nous parlons et le monde créé par le Créateur. Alors, je laisse de côté toutes les doctrines de la chute qui sont invraisemblables et immorales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu chute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas chute. Mais ce que la Kabbalah repousse, c'est que la référence à ce qu'on appelle la faute du premier homme serait la cause de l'état de chaos du monde. Nous avons déjà appris que c'est préalable et qu'il y a une nécessité a priori dans le geste métaphysique même, ontologique même du créé. C'est que si nous nous posons la question fondamentale de savoir quel est le message du premier verset de la Torah qui nous enseigne que Dieu a créé le monde, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'essentiel de ce message consiste à être une confirmation, beaucoup plus qu'une information. Je vais essayer de vous montrer un exégèse très rapide et très simple. Et cela répond à cette complexité. J'admets que le monde soit créé, mais il me reste un problème énorme, le nôtre. Comment se fait-il que le monde soit dans l'état où il est, soit ce qu'il est? Je pense que c'est bien clair. Et je lis les trois premiers mots, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Taharet, en fait, les six mots. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Et déjà, en traduisant Bara par avait créé, ce qui est grammaticalement plus exact que créa, vous avez déjà un élément de réponse. Mais la réponse essentielle, c'est que je ne peux pas faire entrer dans la lettre du verset
un message d'information qui serait qu'on me dévoile que Dieu a créé le monde. Pourquoi ? À cause du monde au commencement qui est de trop. Parce que si le message d'information a été que Dieu a créé le monde de recommencement est inutile. Parce qu'il est bien évident que ça ne peut être que commencement. Il n'a pas pu créer avant le commencement ni après le commencement. Donc le mot de recommencement est de trop. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Et il y a une indication d'ailleurs, selon une des méthodes de la lecture kabbaliste de l'hébreu, si vous avez, si vous visualisez le mot de Bereshit, je crains de me lever pour vous mettre ça en tableau. Non, à cause du micro, je ne peux pas. Enfin, vous avez visualisé vous-même, au début du mot de Bereshit, il y a le mot de Bara, de Bêtre et Chaleur. Ça veut dire que l'idée de commencement, l'idée de création pour ce sujet coïncide absolument. Donc le mot de Bereshit, au commencement, semble être un truc. Et il y a bien un message de confirmation. C'est-à-dire, au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Et la terre était devenue chaos, résultat de la Shvirat HaKelim, vous vous rappelez l'étude de la dernière fois. Mais de toute façon, nous avons besoin de cette confirmation. C'est bien Dieu qui a créé notre monde. À cinq lectures, on ne comprend pas ce que ça signifie créer. Ça, nous l'avons vu précédemment. Mais il était important qu'utilisant ces termes que la Torah sait, que nous ne comprendrons pas parce que nous n'en avons pas expérience, de la création ex nihilo, elle nous livre cette confirmation. C'est bien Dieu qui a créé notre monde. La majorité des mystiques en dehors de la tradition biblique, vous avez entendu parler de la gnose peut-être, en particulier tous les types de gnose, elle pense que ce n'est pas du tout Dieu qui a créé le monde et nous renvoie à un dualisme. Dans sa forme la plus laïcisée, la plus philosophisée, c'était le dualisme d'Aristote, la matière et l'esprit, mais et il y a d'autres exemples beaucoup plus poétisés même d'ailleurs dans le paganisme antique. À la limite, ce qui apparaît en filigrane, c'est cette fameuse dualité Dieu et le diable qui ne fait pas partie du tout du vocabulaire de la Bible hébraïque. Ça fait partie du vocabulaire biblique traduite. La mentalité qui apparaît est une mentalité dualiste. Simplement, je signale la façon du point de vue de l'intituler de la langue elle-même. Le mot de Satan en entier ne renvoie pas à un nom propre. Satan avec un grand S, Monsieur Satan, si vous voulez. Mais il s'agit d'une fonction qui est toujours indiquée avec l'article Satan. Est-ce que c'est bon? Ça se résonne dans la même résorbation, si on peut dire, que nous allons atteindre à propos du problème du mal en général. Je continue donc la lecture du Ramchal. Qui, Birzoto Leheti, Ratsa Ama Atsil, Leam Tsi Nimtsaim, Shei Kabulu, Tuvo. Dans sa volonté de faire le bien, Leheti, de faire du bien, c'était donc l'acte préalable, l'acte moral par excellence, faire exister autrui, donner du bien à autrui, c'est cela le bien habituel, à la portée de notre expérience. Mais donner l'être à autrui, faire être autrui, c'est le bien radical du projet du Créateur. D'où notre question, comment se fait-il que ce projet du Créateur semble être dans son résultat le contraire du postulat de départ? C'est bien juste. Alors je continue. Est-ce que j'ai traduit? Ratsa Amatsil, le Créateur a voulu, les Hamtsi Nitsaïm, faire exister des existants chez Kabou Tuvo qui recevrait Kabou, le Kabbalatayesh, qui recevrait son tout, son bien, les bienfaits. Urde chez Yatol, et afin que ce bien, Yé Shalem, soit parfait, soit en plénitude, Tsarir chez Kabou Mekablim, il est nécessaire que ceux qui le reçoivent, les Mekablim cette fois, hein, toutes les créatures, distinguées, parenthèse, avec les Mekubalim, ceux qui sont reçus, ce dont la prière est acceptée. La prière dans l'objet est un surcroît d'être. Tsarir Shinkablur Mekablim, Bishout Velobitskaka. Il est nécessaire que ceux qui le reçoivent avec un mérite et non pas par charité. Je dis parenthèse, ça ne signifie pas que nous ne recevons pas l'être d'abord par charité, par grâce. Et ça, c'est le l'émerveillement de la naissance. Jusqu'à la bar mitzvah, c'est le temps de la grâce. Le temps où nous profitons de l'être sans avoir à être culpabilisé par le remords de ne pas avoir encore mérité. C'est un temps... Je voudrais reprendre ces choses qui sont banales, mais qui sont passées à leur place de façon folle. C'est vraiment le temps de la grâce, le temps de l'innocence. Et la religion adulte ne s'arrête pas là. La religion adulte découvre, et c'est le moment de la bonne nouvelle, qu'elle doit mériter ce qui a été donné en grâce. Et il y a donc deux actions de grâce différentes. L'action de grâce, de la grâce charitable, si j'ose dire, qui a consisté à me donner l'être avant que je le mérite, et l'action de grâce pour l'être qui m'est donnée au mérite qui me permettra de l'acquérir, et donc d'accomplir plus la volonté du Créateur. Tant que je reste au stade du gratifié, la volonté du Créateur n'est pas accomplie. Il n'a pas encore nahat ruach. Retenez bien cette expression. La asot nahat ruach liot zroh. Liot ebed abouré. Être serviteur du Créateur, c'est recevoir. Mais la asot nahat ruach liot zroh, comment traduire cela ? Donner satisfaction à celui qui a voulu créer, c'est mériter ce que l'on a reçu. Alors il y a donc deux niveaux. Il y en a d'ailleurs trois. Il y a un troisième qui unifie, synthétise les deux premiers. Et vous avez là le déroulement de l'histoire des trois patriarches. Abraham a perçu le temps de la grâce, Yitzhak a perçu le temps de l'exigence du mérite, et Yaakov nous hisser au niveau qui s'appelle Israël, celui de le niveau de la vérité, c'est ça, Mida, de la vérité, de la justification, de l'authentification de la créature, ayant acquis son être et pouvant être face à face avec le Créateur, au sommet de son être. Un exemple dans l'histoire, Moïse, dont nous parle la Bible, et qui est notre maître en tant qu'il est le modèle. Je reviens à ce que disait le Maharal, pour terminer sur cette parenthèse. Il y a des religions qui n'ont perçu que le premier moment. Et ça signifie, d'après notre analyse, qu'elles ne sont pas encore arrivées à être du stade adulte. D'ailleurs, c'est en plein la paracha que nous avons lu cette semaine, Abraham voli de Yitzhak. Abraham, qui est le tzadik de la Midat HaChesed, qui est celui qui est dans la position de recevoir la grâce qui vient de Dieu et qui connaît Dieu dans sa figure gracieuse, si j'ose dire, mais c'est plutôt le machmao, lui a engendré Yitzhak, qui lui perçoit l'autre visage du Dieu unique, qui est le fait que sa volonté ultime, c'est que je mérite ce que j'ai reçu, parce que tant que je n'ai pas mérité en quoi que ce soit, il n'est pas vraiment à moi. Donc, moi, c'est clair jusque-là, comment le Maharal. Je vais simplement terminer la parenthèse avec une sous-parenthèse en nous indiquant qu'effectivement, dans tout ce conflit entre la théologie chrétienne et la théologie juive qui a duré 2000 ans, les données sont fausses. Les théologiens chrétiens formulent en général leur discours de cette manière. Il y a d'abord eu le temps de la loi, c'est la religion primitive des Hébreux, et puis il y a eu ensuite, progrès colossal dans l'histoire de l'humanité, le temps de la grâce. Bon, ils sont à l'envers. Ben, je veux dire que il faut remettre les choses à l'endroit. Okay? C'est qu'il y a d'abord le temps de la grâce, et après le temps du mérite. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, je dirais ceci, la formule est que ils n'ont pas encore accédé au niveau judaïsme. Ils sont encore au niveau abrahamique, si on peut le dire ainsi. Et pour des goïms, qui sont nés en dehors des Hébreux, en dehors de cette souche de la lignée humaine dont la Bible nous parle si abondamment pour nous expliquer d'où sort Abraham, c'est un mérite colossal. C'est un mérite énorme d'arriver à déceler le temps de la grâce, l'espérance de la grâce. Mais s'il n'y avait pas ce conflit par lequel ils prétendent être le véritable Israël et nous renvoyer à la préhistoire, il n'y aurait pas de problème. On pourrait, il y a une espèce de mouvement accumulé pendant 2000 ans qui n'a pas pu être dite, qui pourra peut-être un jour leur être dite quand ils renonceront à la prétention au titre d'Israël, et de leur dire à quel point nous sommes émus de voir toute cette... Non, je ne pleure pas. De voir toute cette humanité qui a découvert le cheminement d'Abraham et qui s'est arrêté là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Alors, je vais faire maintenant cette parenthèse. Nous avons une formule du Ramchal qui est extrêmement importante. dans sa concision même, Tsarir chez Kablou ou Mekablin, Bisrout Velo Bitzdaka. C'est un grand thème de la morale juive. Je vous citerai un verset qui est le point de départ d'énormément d'enseignements de Moussav, de morale. Tzadik soné matanot. Le tzadik, le juste, n'aime pas les cadeaux. Et vous imaginez d'ailleurs tout le programme de philosophie du travail social qui peut y avoir derrière, que ça peut impliquer. On préfère être celui qui donne que celui qui reçoit. Ça fait du bien de recevoir. Il y a toute une stratégie de politesse qu'il faut mettre au point. Ça fait du bien de recevoir. Mais dans la mesure où on a conscience que recevoir donne du bien à celui qui donne. Est-ce que c'est clair? Alors c'est exactement ce sujet que Nahat Kouapé, c'est exactement ce sujet qu'indique le Maharaj, discours de l'Obisdaka, chez l'eau, t'es à boucha, de telle sorte que la honte, quelle honte de recevoir. Boucha, pour le mot, que l'Ochel et chez l'Ochel, de peur que la honte ne l'atteigne, comme celui qui mange de ce qui ne lui appartient pas, de ce qui n'est pas de lui, de ce qui n'est pas du produit de son travail. Toute cette dialectique de l'invité. Et alors, un invité n'est pas à l'aise. Exactement comme l'homme prenant conscience de lui dans le monde avant d'avoir mérité d'être et qui est mal à l'aise d'être. Et parce qu'il a, on pourrait faire une thèse là-dessus, il a la conscience de l'invité. Alors, la seule solution, c'est que l'invité se conduise de telle sorte que sa manière de recevoir donne à celui qui donne. C'est l'expression la rasot nachat ruach leyotzro. Ça va jusque-là? Bon, c'est pas la peine de l'illustrer dans la vie concrète. C'est tellement entré dans les mœurs de l'hospitalité sémite en général, et en particulier donc l'hospitalité juive, quand celui qui invite un invité, si c'est sincère, si c'est pas un jeu d'hypocrisie, si c'est pas devenu de la civilité hypocrite, lui dit tu crois que je te rends service, c'est toi qui me rends service. Nous avons une halakha, une fête. La simcha d'une fête n'est pas la simcha de la fête s'il y avait un invité. Donc pour remplir cette mitzvah qu'il y ait simcha dans la fête, il faut que j'ai un invité, donc c'est lui qui me rend service. Donc, réfléchissons très rapidement à travers cet enseignement, et alors on comprend que l'être dont tout l'être consiste à donner l'être, à créer l'être dont tout l'être consiste à recevoir l'être. Il y a cette dialectique de Liot, Eve, Aboré, Avodat, Aboré, c'est le premier stade. En existant comme créature, je suis serviteur du Créateur. Comment? Je reçois. Je suis donc au service de celui qui donne. Mais je n'ai pas encore accompli son projet réel. C'est donc au deuxième stade. Lorsque j'acquiers, je suis en moi-même en projet d'acquérir par moi-même, en quoi que ce soit, le mérite de recevoir, que vraiment, l'asot, nahat, ruach, la yotzer, que j'accomplis le projet du Créateur. Est-ce que c'est bien clair? Je continue le texte de Ramchal. Urde she yochlu l'iskot. Et afin qu'il puisse mériter, imti metziut echad, Dieu a fait exister, j'ajoute préalablement, une forme de l'existence que j'appellerai ce monde-ci, chez Iye Tsari Haleem et Taken, que les créatures doivent et Taken. Alors, ça, c'est le sujet de la prochaine fois. Mais vous devinez déjà l'organisation du langage, doivent restaurer, arranger un certain métier de créature qui consiste à collaborer à la mise au point du chaos originel. C'est-à-dire, on nous a créé un stade préalable de l'existence où nous aurions quelque chose à faire de telle sorte de mériter d'être. Regardez bien à quoi nous aboutissons. Entendez bien. Ça veut dire l'existence a pour objet le mérite d'être. La metziut et la havaya. La havaya nous est donnée, l'être nous est donné en cadeau. Mais elle nous est donnée d'abord sous forme d'existence. Existence dans ce monde-ci. Et exister a pour objet de mériter l'être. Apparaît là derrière, si vous avez entendu la différence entre être et exister, c'est pas suffisamment clair? L'être dans son sens absolu et l'existence, dans l'existence de la vie quotidienne, où chaque créature est mise en relation avec des situations de moralité qu'elle a à résoudre. Nous verrons tout à l'heure que c'est toujours la même question qui est posée. Comment les créatures se conduisent-elles entre elles? C'est ainsi que le Créateur sait comment elles se conduiront avec lui. C'est un problème délégué au niveau de la créature. La relation à tout autrui, que ce soit le facteur, l'épicier, etc. Donc, je reviens à notre question. C'est que, afin de résoudre cette difficulté, qui est que le fait de recevoir l'être n'accomplit pas encore le projet de celui qui donne l'être, et c'est là que l'analyse doit nous repayser, je voulais dire l'envers de dépayser, de nos habitudes de culture occidentale. Parce que ça a tellement imprégné la culture occidentale que ce que Dieu donne, il le donne en grâce, un point, c'est bien clair. Alors que la ligne de force de l'enseignement de la Torah à ce sujet, c'est que c'est le premier stade, et cela n'est vraiment accompli que lorsque ce qui est reçu premièrement en grâce est mérité. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Et pour que ce soit donc possible, pour résoudre cette impasse, c'est où ça? Où ça? Mais dans les deux.